Bonjour.
Bonjour Firouz.
On se retrouve dans le fief de Cannes Classique. Alors le rythme a été intensif ces premiers jours. Donc on se voit à mi-chemin du festival. Il y a déjà eu des événements importants. À commencer par La Maman et la Putain. Vous pouvez nous dire quelques mots ?
Oui, effectivement, c'est un des moments les plus importants parce que c'est un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma probablement mondial, qui a inspiré de nombreux réalisateurs. Un film qui était en 16 mm, qui avait marqué la croisette à l'époque puisque c'était un film qui était en compétition et qui a démarré ce qu'on peut appeler le cinéma de la modernité. Bon, c'est peut-être un terme en fait que les historiens ou les critiques cherchaient à l'époque pour faire suite à la nouvelle vague. Mais en tout cas, effectivement, c'est un film qui a beaucoup marqué et qu'on attendait de voir dans de bonnes conditions, voire de voir tout court, puisque le film n'était pas véritablement invisible. Mais en tout cas, le film était difficilement accessible. C'est-à-dire que depuis sa sortie en salle en 73, il n'y avait jamais eu de ressortie. Il y a eu quelques projections de ci, de là. Il était passé en télévision, mais très, très rarement. Pas de DVD, pas de Blu-ray, pas de streaming. Donc c'est vraiment un film à découvrir en salle de prime abord. Et ensuite, bien évidemment, un film à découvrir à Cannes. Donc on a eu la chance d'avoir Françoise Lebrun qui a présenté le film. Et ensuite, Jean-Pierre Léaud qui est venu à la fin pour pouvoir célébrer son ami Jean Eustache comme il l'a dit lui-même. Donc c'était très très important de pouvoir montrer ce film en salle de Bussy devant 1100 spectateurs. Donc c'est vraiment important de voir aussi que le patrimoine est porté par à la fois la jeunesse, le public en général et bien évidemment par le Festival de Cannes dès l'ouverture. Donc ça c'est un des événements les plus marquants des débuts du festival puisque là on est à mi-chemin comme vous le disiez.
Et Jean-Pierre Léaud qui a été ovationné.
Oui, oui, en fait, il est resté debout un long moment, il est reparti s'asseoir quatre fois, et puis après, ils se sont enlacés avec Françoise Lebrun, et c'était vraiment une ovation digne de son talent et de l'empreinte qu'il laissera dans l'histoire du cinéma.
Autre temps fort de Cannes Classique cette année, un Cannois qui est mis en avant. Justement, Gérard Philippe, il y avait toutes les jeunes filles de l'époque qui peut-être sont maintenant septuagénaires, octogénaires, qui étaient toutes émoustillées de le voir sur grand écran.
Oui, effectivement, c'est à la fois une histoire de Cannes, du Festival de Cannes, puisqu'il était en compétition avec Fanfan la Tulipe en 1952. Christian Jacques a obtenu le prix de la mise en scène, donc on montrera le film vers la fin du festival, le vendredi au Cinéma de la Plage, puisque c'est un film populaire, vraiment un grand film. On a pu faire écho à la programmation de ce film avec un documentaire, évidemment, qui n'a pas encore été montré, qui a été réalisé par Patrick Jeudy avec l'appui de la fille de Gérard Philippe, qui elle-même est actrice, Anne-Marie Philippe. Et puis, c'était l'adaptation d'un livre de Jérôme Garcin, qui est donc directeur des pages culture du Nouvel Observateur, qui anime Le Masque et la Plume, donc c'est un cinéphile devant l'éternel, bien évidemment. Et donc, on les a eus tous les trois sur scène pour présenter ce documentaire, et puis, bien évidemment, faire honneur à la ville de Cannes et à l'enfant de Cannes.
L'enfant de Cannes, dont toutes les midinettes qu'il admirait à l'époque étaient présentes. Et un autre anniversaire différent, les 40 ans de la disparition de Patrick Devers. Là aussi, 4 décennies déjà, c'est important.
Oui, oui, c'était vraiment important de pouvoir célébrer le talent de Patrick Devers qui s'inscrit vraiment dans une époque de rébellion où le cinéma est complètement chamboulé avec le succès des Valseuses, qui est un succès commercial gigantesque à l'époque. Lui-même, en tant qu'enfant acteur venant d'une famille de comédiens, est complètement à la fois dans l'esprit d'une époque et puis aussi un grand acteur populaire, mais dans le sens noble du terme, quelqu'un qui vraiment fait preuve d'investissement vis-à-vis de son art, et puis aussi qui est très très connu du grand public. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on arrive 40 ans après sa disparition et on se demande où est la place de cet acteur, quelle est la place de la politique, quelle est la place de rébellion dans le cinéma, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées actuellement, comment il s'inscrit par rapport à tout ça, quelle est l'époque. Et ce documentaire nous semblait important d'une part parce qu'il y avait le témoignage de sa fille et puis aussi et surtout parce qu'il y avait toute une histoire du cinéma français bien sûr, qui se déroulait sous nos yeux à travers cet acteur qui était vraiment un acteur très très marquant de cette époque. Et le documentaire amenait avec finesse toute la dureté de cette époque et vraiment tout ce chamboulement et puis aussi des traumas qui peuvent être liés au jeu, à la vie. C'était vraiment pour nous très intéressant de célébrer et important de célébrer la disparition de Patrick Devers, enfin pas célébrer sa disparition mais plutôt célébrer son toute la portée qu'il a pu avoir et tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui chez de nombreux acteurs de manière consciente ou inconsciente.
et ce qu'il a inspiré chez les cinéastes, un charisme évident qui a même inspiré la bande dessinée. Puisque vous êtes à Angoulême, je le mentionne, il y a eu une bande dessinée qui est sortie l'année passée sur Patrick Devers. Autre moment très important et très fort, puisque c'était le dernier message de Jean-Claude Carrière hier soir. Vraiment, le public était attentif, ému, et c'était donc Jean-Claude Carrière qui nous entraîne sur les pas de Goya.
Oui, Jean-Claude Carrière, donc scénariste, écrivain, homme de culture, qui repart sur les traces de Goya, qui lui-même repart en même temps sur les traces de Buñuel avec lesquelles il a énormément travaillé. Donc c'était vraiment passionnant de voir Jean-Claude Carrière se replonger dans des racines de culture, aussi de le voir parler de peinture, d'art en général. De toute façon, la parole de Jean-Claude Carrière est précieuse et rien que le fait de l'écouter, d'entendre sa voix à nouveau, d'entendre son érudition, son esprit, c'était un plaisir en soi. En plus, les qualités cinématographiques du film étaient telles que José Luis Linares a un tel œil que ça nous semblait vraiment important de pouvoir parler au-delà du cinéma, mais aussi pouvoir parler d'art en général. Ça serait un peu la même chose à la fin du festival avec un documentaire de Pino Solanas, le réalisateur argentin qui lui-même aussi part dialoguer avec d'autres artistes de peinture. Donc c'était assez étonnant de voir le dialogue des arts et de pouvoir hier soir célébrer la mémoire de Jean-Claude Carrière. Ça nous semblait important puisqu'il est venu de nombreuses fois à Cannes Classique. C'était quelqu'un qui présentait extrêmement bien les films, qui en parlait avec passion et jamais comme on l'attendait. Donc ça, c'était vraiment un plaisir d'entendre à nouveau sa voix, non pas résonner dans la salle Buñuel, mais de le voir sur grand écran.
Et avec des anecdotes très savoureuses.
Oui, avec beaucoup d'esprit, comme d'habitude.
Et facétieux.
Oui, toujours très drôle, avec beaucoup d'entrain, et puis jamais moqueur, jamais méchant, mais vraiment avec de l'esprit, et puis une grande sensibilité et une attache à l'âme humaine vraiment passionnante.
Alors Gérald, cette année, vous me faites beaucoup voyager. Tout d'abord au Brésil, avec la Cinémathèque du Brésil, et Clobert Rocha.
Oui, ça aussi, c'était. Il y avait évidemment le fait de pouvoir remontrer la restauration 4K du film de Clobert Rocha, Deus e o Diablo, qui nous semblait vraiment passionnant de pouvoir remontrer en fait 20 ans après la première restauration qui avait été faite, qui à l'époque était sortie en DVD. Donc là, on était face à une restauration qui est issue du négatif originel. Donc en fait, sa fille Paloma Rocha est repartie du négatif pour faire une restauration image par image, et qui dépassait bien évidemment la qualité du film qui avait été restauré en 2002-2003 et qui avait été montré ici au Festival de Cannes, donc qui avait servi à faire l'édition DVD à l'époque. Et là, ça nous semblait vraiment important de pouvoir à la fois remontrer le film qui dialogue bien évidemment avec le Brésil d'aujourd'hui, avec l'oppression, avec l'attachement à la terre, avec toute cette tout l'art en fait en général, tous les artistes qui sont mis à mal par le gouvernement. Donc c'était bien évidemment le plaisir de pouvoir faire un pied de nez au gouvernement grâce à Clobert Rocha ou au travers de Clobert Rocha. Et puis aussi de tirer notre chapeau au travail de la Cinémathèque brésilienne qui souffre énormément puisqu'ils ont eu des coupes drastiques dans le budget, ils n'ont pas l'électricité tous les jours, donc du coup c'est très très dur de maintenir à la fois le travail, à la fois l'humidité suffisante pour conserver les copies, et donc de les remercier pour leur combat vis-à-vis du cinéma brésilien de manière plus globale. Donc c'était vraiment un ensemble qui nous permettait de voir à nouveau du cinéma brésilien aussi à Cannes Classics.
Oui, puis qu'il arrive au pouvoir, on a compris que le président actuel n'est pas très intéressé par la culture, il est au centre d'intérêt. Bravo de leur donner cette visibilité justement à Cannes, ça permet aux festivaliers d'en profiter. On continue le voyage, on va vers toujours un peu plus loin en Asie, les Philippines.
Oui, en fait, il y a quelques années, il y avait eu un travail qui avait été mené sur l'industrie du cinéma qui venait des Philippines, avec Mani, par exemple. Donc ça, c'est aussi pour tirer d'une certaine façon notre chapeau à Pierre Rissian, qui était un des grands messieurs du cinéma et du cinéma de voyage, hein, qui allait chercher des films un peu partout dans le monde. et là de pouvoir à nouveau montrer du cinéma philippin avec Mike De Leon qui était un grand chef opérateur qui est après devenu réalisateur, c'était aussi se plonger dans des cultures qu'on n'a pas forcément tous les jours à l'esprit et qui peuvent amener tant que c'est vraiment intéressant de voir dans les années 70 comment se situe un cinéma fantastique qui vient d'ailleurs, qui est vraiment passionnant et qui est profondément et visuellement très très inspiré par, par un cinéma plus européen qui vient des années 60. Le co-scénariste qui était sur scène a évoqué Blow Up d'Antonioni parce qu'il nous expliquait qu'il suivait l'actualité du Festival de Cannes, évidemment avec quelques années de décalage, et quand les films arrivaient systématiquement, quand ils avaient des films qui étaient à Cannes, ils allaient les voir, et Blow Up les a beaucoup inspirés pour ce film, donc c'est pour Itim, et donc c'était vraiment très très intéressant de voir aussi le fait que le grand cinéma en fait permet à d'autres cinémas avec des industries plus fragiles d'exister et d'être vu de par le monde comme on essaye de le faire cette année avec ce cinéma des Philippines qui vraiment est très intrigant, vraiment c'est vraiment ça.
Et puis je pensais qu'il a inspiré certains cinéastes contemporains comme Lav Diaz.
Oui, effectivement, c'est ça qui est assez, c'est toujours ça qui est de toute façon très très intéressant de voir avec le cinéma de patrimoine. C'est un peu la même chose. Ce que vous me dites me fait penser au fait de montrer Chuchia, donc le film italien de Vittorio De Sica de 1946, qui est un film qui a lui-même, alors c'est un film qui en 1946, donc c'est une des œuvres matrices du néo-réalisme italien et qui a été un échec commercial gigantesque. Sauf aux États-Unis puisqu'il y avait de l'argent qui en provenance des États-Unis qui avait été investi et donc à partir de là le film a pu être distribué aux États-Unis et il a inspiré notamment La Nuit du Chasseur, il a inspiré Sergio Leone, bon ça c'est pour revenir sur l'Italie mais n'empêche que ça le fait dialoguer avec il reprend en fait une scène qui était dans Il était une fois en Amérique, donc du coup ça veut dire aussi qu'il y a un dialogue à nouveau avec le cinéma américain entre l'Italie et les États-Unis et puis bien évidemment il y a aussi Los Olvidados de Buñuel, donc on en revient à nouveau à Buñuel hein, puisque la plupart de nos séances se passent en salle Buñuel et donc le film a inspiré énormément Louise Buñuel, donc c'était vraiment très très intéressant aussi de voir à travers cette œuvre qui est exceptionnelle de voir en fait toutes les ramifications et la façon dont ça s'insère et c'est souvent ça qu'on voit à Cannes Classics c'est de voir comment les œuvres du passé peuvent donner du sang en fait au cinéma actuel, alors le cinéma actuel d'une certaine époque et puis après comment tout ça va voyager vers le cinéma d'aujourd'hui.
Les échos entre les diverses périodes. Vous êtes revenu en Europe, je repars en Asie pour le Japon avec les Jeux Olympiques filmés par...
Alors Naomi Kawase qui cette année en fait continue dans la grande tradition du CIO, le comité qui organise les Jeux Olympiques et qui depuis je pense les années 20 si je dis pas de bêtises en fait commandite toujours à un grand réalisateur ou des grands réalisateurs puisqu'on montrera aussi un film de 1973 Visions of Eight où 8 grands réalisateurs dont Miloš Forman, dont Claude Lelouch qui était présent avec nous pour filmer les Jeux Olympiques avec leur bien particulier, donc effectivement ce film de Naomi Kawase c'est la vision qu'elle a des Jeux Olympiques donc de 2020 mais qui ont eu lieu en 2021 à Tokyo, donc une grande réalisatrice japonaise pour illustrer visuellement, mais bien sûr c'est bien, on va bien au-delà puisque en fait on a son œil qui nous fait entrer dans les Jeux Olympiques et donc on perpétue cette grande tradition de pouvoir filmer que le cinéma s'empare des Jeux Olympiques pour les montrer à nouveau à Cannes, donc là ça nous permet de faire un clin d'œil aussi et de relier le passé et le présent en montrant un film actuel tout en dialoguant avec un film de 1973, donc c'est vraiment aussi très intéressant de voir les évolutions cinématographiques, les techniques cinématographiques et puis bien évidemment l'œil des cinéastes.
Alors Gérald, on repart en Europe, on fait un drôle de voyage aujourd'hui mais grâce à Cannes Classics, la nouvelle vague tchèque.
Oui, alors on avait effectivement eu un coup de cœur, évidemment on n'est pas les seuls hein, pour les petites marguerites de Vera Hrytilova qui est un film qui est, alors, dont on peut dire qu'il est connu, alors je ne sais pas si c'est c'est un bien grand mot en tout cas pour parler du film parce que par exemple si on parle du Parrain que nous avons diffusé sur la plage hier soir, sur la plage donc dans une grande séance populaire pour fêter l'anniversaire anniversaire de l'Association des producteurs américains, leur 100e anniversaire, le 75e anniversaire du Festival de Cannes et les 50 ans du Parrain. Donc un triplé en fait. On a toujours évidemment à l'esprit cette idée en fait de célébrer le cinéma, qu'il soit plus populaire et donc on joue comme ça avec la plage pour pouvoir montrer d'autres films qui peuvent nous sembler intéressants et qui nous permettent de célébrer des anniversaires.
Et le rendre accessible puisque la plage est libre d'accès.
Oui, c'est ça. En fait, on a sur la plage un accès ouvert à tous les accrédités ou pas. En fait, il n'y a aucun contrôle. C'est ça qui est assez magnifique. Et en fait, ça donne, grâce à la plage, une ouverture sur la croisette du cinéma. Donc le Festival de Cannes s'ouvre. Mais le Festival de Cannes s'ouvre de plus en plus au public. Il y a de plus en plus de grand public au Festival de Cannes. Se faire accréditer en tant que cinéphile, c'est de plus en plus facile, si je puis dire. Et donc, à partir de là, on a de plus en plus de jeunes, puisqu'on a aussi une idée d'ouverture et de montrer que le cinéma populaire, que ce soit du grand cinéma, du cinéma d'auteur, du cinéma peut-être parfois plus difficile d'accès, tous les cinémas ont le droit de citer à Cannes et tous les publics ont le droit de venir et d'en profiter aussi.
Gérald, merci pour cette ouverture justement. Deux hommages, un d'une personne qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, Fernando Solanas.
Oui, Fernando Solanas est déjà venu deux fois à Cannes Classics pour la restauration du Sud, El Sur, et puis il était venu aussi pour l'Or des Brasiers quand on avait célébré 1968. Donc c'était vraiment probablement une des manières les plus intéressantes et les plus fortes d'avoir un réalisateur qui lui-même ayant filmé les révolutions argentines et même d'Amérique du Sud partait avec ses copies 16 mm de village en village pour montrer le film. Donc c'était passionnant de pouvoir montrer ça, et puis aussi c'était toujours dans l'idée de voyage que vous évoquiez tout à l'heure, de continuer le voyage, non pas systématiquement en France et de reparler des barricades et des pavés qui avaient été soulevés à Paris ou à Toulouse ou à Montpellier dans les grandes villes françaises, mais justement de voir en fait ces luttes dans d'autres contrées. Et dans d'autres contrées, ça veut dire qu'on part en Argentine et on a ce documentaire qui va nous permettre de rendre hommage une dernière fois, ou peut-être pas, on verra si on a d'autres propositions à venir concernant Fernando Solanas dans les années à venir, mais en tout cas de pouvoir célébrer sa mémoire en présence de sa famille et Gaspard Noé, le réalisateur dont il était très très proche.
Autre hommage, Souleymane Cissé, qui était toujours accompagné par sa fille, qui l'est toujours, qui lui rend hommage justement.
Oui,
un cinéaste qui donne la voix aux petites gens.
Oui, sa fille en fait nous a envoyé un documentaire qu'elle a réalisé sur son père, qui nous a beaucoup touchés, très très fin, avec un rythme vraiment particulier, à la fois cinématographique, personnel, qui évoque bien évidemment l'histoire du Mali. Tout cela peut paraître un documentaire de grande ampleur. Or, c'est un documentaire qui fait 1h10, qui est très ramassé et qui a un rythme vraiment particulier, assez lent, mais en même temps avec beaucoup d'énergie. C'est vraiment très très étonnant, c'est une découverte pour nous de voir que sa fille Fatou Cissé pouvait, puisqu'on la connaît comme chef d'entreprise, comme assistante, comme interventionniste, c'est toujours elle qui est là pour épauler son père dans tous ses projets, a aussi bien évidemment un œil sur son père et l'influence que son père a pu avoir à la fois sur le cinéma en général, le cinéma malien, voire le cinéma d'Afrique, et puis aussi, elle, en tant que fille, l'influence que ça a pu avoir sur elle, son comportement et la façon dont c'est passé au travers de ses yeux. C'est vraiment passionnant de voir ce documentaire et la façon dont elle parle de son père et vraiment ce rythme particulier qui évoque l'Afrique et un cinéma qui a le droit de citer à Cannes et qu'on est ravis de pouvoir montrer vraiment comme un coup de cœur.
Gérald, on a beaucoup voyagé. Est-ce que j'ai oublié un voyage ?
Alors, est-ce que vous oubliez un voyage ? Je pense qu'effectivement, là, ce soir, on fait un voyage musical avec Martin Scorsese, puisqu'on repart dans les années 70, comme Visions of Aid, qui était en 73. Là, on part en 1978, un film qui est sorti en 78, mais un film qui, en fait, a été tourné en 1976. C'est le dernier concert de Band, donc qui était le groupe qui accompagnait Bob Dylan. Et Scorsese, qui, à l'époque, était le compagnon de route, qui habitait avec le leader du groupe, chanteur, va filmer en fait le dernier concert de ce groupe pour pouvoir couchés sur pellicule leur tout dernier concert en présence d'artistes. Donc il y a une mise en scène exceptionnelle, une grande énergie dans la réalisation. Vraiment, c'est comme d'habitude chez Scorsese, c'est du j'allais dire c'est du top niveau. Je pense à, voilà, aux artistes aux artistes sportifs que l'on voit dans Visions of Hate, mais là on a les grands de la musique qui dialoguent avec peut-être un des plus grands réalisateurs du cinéma mondial, Martin Scorsese.
Il va être difficile de tout voir de Cannes Classic. Il y a une masterclass aujourd'hui.
Effectivement, alors on a commencé fort, hein, si je puis dire, avec une masterclass de Tom Cruise,
qui est
arrivé en hélicoptère.
Et qui a eu droit à un feu d'artifice tricolore.
Oui, oui, avec aussi le passage de la patrouille de France, donc vraiment l'événement dans toute sa splendeur. Voilà, l'hommage aussi de la patrouille de France à Tom Cruise. Et puis, c'était magnifique de voir à nouveau un des monstres du cinéma, une des légendes. Je pense que c'est un acteur qui restera, comme Paul Newman restera, avec le documentaire Ethan Hawke, qui était sur scène hier soir pour présenter en fait deux épisodes d'un film documentaire qu'il a réalisé en 5 épisodes de 5 heures, un épisode d'une heure et demie sur Paul Newman et John Woodward, ou John Woodward et Paul Newman, donc mari et femme, actrice et acteur, qui ont laisser un poids inimaginable dans l'histoire du cinéma américain et probablement du cinéma mondial, bien sûr, des légendes. Et donc, c'était exceptionnel de pouvoir voir cet hommage, cette vision du cinéma en présence d'Ethan Hawke, donc l'acteur, désormais, bien évidemment, réalisateur, producteur, scénariste, enfin, très très impliqué dans les projets, venant présenter à Cannes un documentaire où lui-même nous parle d'histoire du cinéma, de son histoire, de sa vision de ce couple mythique et bien évidemment de la portée de Paul Newman sur le cinéma.
Voilà, quel programme. On pourrait se consacrer qu'à Cannes Classique, mais il y a aussi d'autres sections, malheureusement. Merci Gérald, belle édition et à l'année prochaine, bien évidemment.
Merci beaucoup à vous, Firouz, et puis oui, j'espère à bientôt. Évidemment, il y a beaucoup de films à voir à Cannes Classics, et puis Cannes Classics est une composante du Festival de Cannes, donc il y a toujours des films à voir.
Merci Gérald.
Merci à vous.